Te célébrons ce matin. Toi qui es devenu plusieurs choses et qui t'es caché dans plusieurs choses pour nous sauver. Et en ces jours, nous célébrons ta mort, mais aussi ta résurrection. Nous voulons te reconnaître comme notre ville de refuge. Mais nous voulons aussi te reconnaître comme notre bouc Azazel. Ces choses sur lesquelles je vais parler, Seigneur, sont au-dessus de ma compétence, de ma compréhension. Je suis un peu comme Jean à Patmos. Tout ce qu'il avait vu le dépassait tellement qu'il n'avait pas le vocabulaire qu'il fallait. Il parlait chaque fois en termes d'approximation. Il disait qu'il avait les yeux comme, j'entendrais un bruit comme, parce qu'il n'arrivait pas à trouver de vraies références. Ce matin, Seigneur, passe au travers de ces lèvres imparfaites et de cette intelligence limitée pour communiquer ces vérités intemporelles. Aide-moi à essayer de les exprimer. Je n'ai pas dit exprimer, essayer, parce que je ne peux qu'essayer. Mais aide-nous aussi à essayer de comprendre. Avant ces jours où, comme l'apôtre dit, nous connaîtrons comme nous avons été connus. En attendant ces jours, bénis cette heure. Qu'elle serve à ta gloire et à notre bien. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer celui qui est mort et ressuscité? Ouvrez vos Bibles avec moi. Nous allons lire deux textes, deux longs textes, mais qui valent la peine. Il arrive des fois que la parole de Dieu elle-même, par la lecture, nous parle plus que tout ce que le prédicateur peut dire après. Nombre chapitre 35. Nous lisons d'abord le verset 6. Au verset 7, 6 à 7. Parmi les villes que vous donnerez aux Lévites, il y aura 6 villes de refuge où pourra s'enfuir les meurtriers et 42 autres villes. Total des villes que vous donnerez aux Lévites, 48. Avec leur banlieue. Nous sautons, nous allons au verset 9. L'Éternel parla de 9 au verset 15e. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, lorsque vous aurez passé les Jourdains et que vous serez entrés dans le pays des Canaan, vous vous établirez des villes qui soient pour vous des villes de refuge, où pourra s'enfuir le meurtrier qui aura tué quelqu'un involontairement. Ces villes vous serviront des refuges contre les vengeurs du sang, afin que le meurtrier ne soit point mis à mort avant d'avoir comparu devant l'assemblée pour être jugé. Des villes que vous donnerez, 6 seront pour vous des villes de refuge. Vous donnerez 3 villes au-delà du Jourdain et vous donnerez 3 villes dans les pays des Canaan, des refuges. C'est qu'un, ces villes serviront des refuges d'Israël à l'étranger, à celui qui est au milieu de vous. Là pourra s'enfuir tout homme qui a tué quelqu'un involontaire. C'est 22 avant 8. Mais si un homme pousse son prochain sub par inimitié, ou s'il jette quelque chose sur lui sans préméditation, fait tomber sur lui par mégarde une pierre qui puisse causer la mort, et que la mort en soit la suite, sans qu'il ait de la haine contre lui, cherche du mal. Voici les lois d'après lesquelles l'Assemblée jugera entre celui qui a frappé et les vengeurs du sang. L'Assemblée délivrera le meurtrier de la main du vengeur du sang et le fera retourner dans la ville des refuges où il s'était enfui. Il y demeurera jusqu'à la mort du souverain sacrificateur, qu'on a oint de l'huile sainte. Si le meurtrier sort du territoire de la ville de refuge où il s'est enfui, et si le vengeur du sang le rencontre hors du territoire de la ville de refuge et qu'il tue le meurtrier, il ne sera point coupable de meurtre, car le meurtrier doit demeurer dans sa ville de refuge jusqu'à la mort du souverain sacrificateur. Et après la mort du souverain sacrificateur, il pourra retourner dans sa propriété. Amen. Nous lisons aussi Lévitique au chapitre 16. Nous partons du verset 3 au verset 10. Et puis nous lirons 20 à 22. Et nous terminerons avec le verset 26. Lévitique 16, partons du verset 3. Voici de quelle manière Aaron entrera dans le sanctuaire. Il prendra un jeune taureau pour les sacrifices d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Il se revêtira de la tunique sacrée d'élan et portera sur son corps des caleçons d'élan. Et il se ceindra d'une ceinture d'élan et il se couvrira la tête d'une tiare d'élan. Ce sont les vêtements sacrés dont il se revêtira après avoir lavé son corps dans l'eau. Il recevra de l'assemblée des enfants d'Israël deux boucs pour les sacrifices d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Aaron offrira son taureau expiatoire et il fera l'expiation pour lui et pour sa maison. Il prendra les deux boucs et les placera devant l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation. Aaron jettera les sorts sur les deux boucs, un sort pour l'Éternel et un sort pour Azazel. Aaron fera approcher les boucs sur lesquels est tombé les sorts pour l'Éternel et il offrira en sacrifice d'expiation. Et les boucs sur lesquels est tombé les sorts pour Azazel sera placé vivant devant l'Éternel afin qu'il serve à faire l'expiation et qu'il soit lâché dans le désert pour Azazel. Merveilleux passage. Verset 20. Lorsqu'il aura achevé de faire l'expiation pour le sanctuaire, pour la tente d'assignation et pour l'autel, il fera approcher les boucs vivants. Aaron posera ses deux mains sur la tête du bouc vivant et il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il les mettra sur la tête du bouc, puis il les chassera dans les déserts à l'aide d'un homme qui aura cette charge. J'aime le verset 22. Le bouc emportera sur lui toutes leurs iniquités dans une terre désolée. Il sera chassé dans les déserts. Verset 26. Celui qui aura chassé les boucs pour Azazel lavera ses vêtements et lavera son corps dans l'eau. Après cela, il rentrera dans les camps. Amen. Je disais, en ces jours, nous célébrons la mort, mais surtout la résurrection de notre Seigneur. J'ai voulu, et le Saint-Esprit me l'a imposé, parler sur le thème Jésus-Christ, notre ville des refuges et notre bouc Azazel. J'ai eu à cœur, partant de ces deux images de l'Ancien Testament, nous aider à comprendre l'œuvre que Christ a accomplie et les choses dont nous sommes bénéficiaires dans notre relation avec lui, si seulement nous sommes en relation avec lui. J'aime quand l'apôtre Paul, parlant de quelque chose qui lui était arrivé et parlant des conséquences, il parle de cette chose qui est devenue une quête pour lui. Il dit, je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Il a voulu connaître Jésus-Christ. Il a voulu connaître et crier Christ. Philippiens chapitre 3, verset 10. Et il dit, verset 8 à 10 plutôt. Au verset 10, tout ce que je désire, c'est de connaître Christ. Il veut le connaître. Et les mots connaissance ici que l'apôtre Paul utilise va au-delà d'accumulation d'informations. Ces mots plutôt veulent dire comprendre. Dans sa racine à la fois en grec, mais aussi latine qui veut dire entrer dans. Et par rester pénétré pour voir les vrais sens. J'aimerais connaître Christ, j'aimerais comprendre qui il est et son œuvre. Et par rapport à la compréhension de Christ, ainsi que son œuvre en notre faveur, la Bible nous montre qu'il y a et qu'il y aura deux temps avec deux contextes cachés à la connaissance, à la compréhension. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 12 nous le montre. Et la version lui second dit ceci. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure. Alors, qu'est-ce que j'aime ça? Nous le verrons face à face. Et il ajoute, aujourd'hui, je connais en partie, mais alors, je connaîtrai comme j'ai été connu. La version française courante dit, à présent, nous ne voyons qu'une image confuse. Une autre version dit, nous ne voyons pas clairement. Pareil à l'image d'un vieux miroir. Mais il ajoute, mais alors, nous les verrons face à face. À présent, je ne connais qu'un complètement, mais alors je connaîtrai Dieu complètement, comme lui-même me connaît. Les deux temps avec deux contenus sont un aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'aujourd'hui a comme contenu? Aujourd'hui a comme contenu une vision ainsi qu'une compréhension limitée. Pas clair, obscur, confuse, connaissance partielle, quels que soient les degrés de la révélation que nous pouvons avoir de Dieu, de surtout l'œuvre de la croix, elle n'est que partielle. Aussi loin que nous pouvons penser que nous détenons une quantité et une qualité d'informations. Mais le deuxième temps, c'est demain, que l'apôtre Paul présente en disant « alors ». Et il a eu parler de l'éternité. Et là, il parle d'une vision claire, d'une connaissance complète et sans restriction. J'aime les termes qu'il utilise. Il dit « nous connaîtrons comme nous avons été connus ». Connaissance complète. Des choses qui sont approximatives ne les seront plus. En étudiant aussi la parole de Dieu, on arrive souvent à deux conclusions en termes des connaissances, des révélations ou des compréhensions de l'œuvre de Dieu. La première conclusion à laquelle on arrive, c'est que la connaissance de Dieu ou sa révélation sont toujours progressives. Elles se font par étapes. Deux passages nous confirment cela. Dans Exode chapitre 6 au verset 3, Dieu parle à Moïse et lui dit ceci. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant, El Shaddai. Mais je n'ai pas été connu de sous mon nom, l'Éternel, El Elyon. Ils ont connu de moi, mais une partie. Le peu que je mets à leur disposition. Mais à toi, je donne quelque chose en plus que eux n'avaient pas. Progrès dans la connaissance. Dans Galates chapitre 3, au verset 24, l'apôtre Paul, essayant d'expliquer la vertu et la puissance de la loi, il dira, ainsi la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. Il a été donné la loi restrictive, contraignante, mais le but de la loi, c'était nous révéler que nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes, pour nous tourner vers Christ, afin de saisir le salut par la grâce. Mais la deuxième conclusion à laquelle on peut arriver en étudiant la parole de Dieu, c'est que la révélation s'est faite par l'utilisation des types. Des types. Le mot type, ça veut dire il y a l'ombre et il y a tout au long de la Bible. Nous voyons cette réalité des types. Dans l'étude de la parole de Dieu, lorsqu'on parle des types, on voit des objets, des personnes, des éléments de l'Ancien Testament, mais qui représentent et cachent symboliquement des réalités spirituelles dans le Nouveau Testament. On parle des types, des objets, des événements, des personnes, des actions qui, dans l'Ancien Testament, représentent et cachent symboliquement une réalité spirituelle qui sera plus tard clairement exprimée dans le Nouveau Testament. Parler des types, c'est parler aussi d'enseignements d'après lesquels des éléments appartenant au Nouveau Testament ont été préfigurés dans l'Ancien Testament. Ces choses se sont passées, mais ces choses, comme j'aime bien celui qui a écrit l'Épître aux Hébreux, a dit là, c'était l'ombre. Et dans la Nouvelle Alliance, c'est la réalité. Un peu comme quand tu vois mon ombre et tu sais que je suis là. Mais mon ombre, ce n'est pas forcément moi. Quelques exemples qui nous renforcent cette réalité sur les types ou la typologie. Hébreux chapitre 10, verset 1, présente la loi comme une ombre des choses à venir. Elle-même n'était pas quelque chose de définitif. Elle projetait sur quelque chose d'autre. Dans Jean chapitre 3, verset 14 à 15, nous voyons que les serpents d'airain que Moïse a élevé dans les déserts est présenté comme étant un type de Christ. Il est dit ceci, et comme Moïse éleva les serpents dans les déserts, il faut de même que les fils soient élevés, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Quand Moïse posait cet acte, lui-même n'avait aucune idée qu'il était en train de préfigurer quelque chose qui allait plus tard. Dans Matthieu chapitre 12, verset 41, Jésus-Christ ouvre la bouche et il parle de quelque chose qu'un homme avait vécu, Jonas. Et il veut montrer que ce que Jonas avait vécu, c'était l'ombre. Mais lui amène la réalité. Car de même, Jonas fut pendant 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un gros poisson. De même, le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Jonas, dans le sein du poisson, c'était une préfiguration de Christ enfermé par la terre. Mais de la même manière, le gros poisson l'a vomi. De la même manière, il allait sortir libre. Et vainqueur.
1 Corinthiens chapitre 10, verset 4, présente les rochers frappés dans les déserts et qui a fait sortir de l'eau comme un type de Christ. Et c'est l'apôtre Paul qui en parle. Il dit, ils ont tous bu les mêmes breuvages spirituels, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ces rochers étaient Christ. Mais c'est sûr, et ils ne voyaient pas Christ au travers du rocher physique, mais les rochers physiques qui étaient frappés et qui a fait sortir l'eau, cachaient Jésus-Christ. Avant de poursuivre, j'aimerais dire une chose que j'estime d'une grande importance, c'est que les types dans l'Ancien Testament qui symbolisent les réalités données dans le Nouveau Testament montrent deux vérités. La première, c'est qu'il n'y a pas de cassure, il n'y a pas de séparation entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Pas de cassure, bien au contraire, un prolongement. Deuxième vérité, c'est que la Bible s'explique par la Bible. La Bible s'explique par la Bible. Si tu découvres ce que tu penses quelque part, lis encore. J'aime quand Jésus-Christ dit, il est écrit, il est aussi écrit. Et les deux types qui font l'objet d'aujourd'hui ont trois buts. M'aide à atteindre ces trois buts en présentant ces deux. Le premier but, c'est nous aider à mieux connaître notre et son œuvre. Avoir les yeux ouverts sur la hauteur, la longueur, la largeur et la profondeur de ce qu'il a accompli. Il arrive des fois, nous avons une connaissance tronquée, une connaissance limitée. Raconte l'histoire d'une jeune fille très mignonne, celle de son quartier l'appelait presque Miss Monde, tellement jolie. Elle donnait l'impression d'être la perfection faite homme. Et quand elle grandissait, elle ne se faisait pas de problème. Mais quand elle a commencé à avoir 15, 16 ans, elle était complexée d'avoir le genre de maman qu'elle avait. Brûlée. Vous savez, quand quelqu'un est brûlé, les lèvres reviennent à ce niveau. Les doigts sont un peu comme des singes boucanés. Quand elle était petite, ça ne lui faisait pas un problème. Mais quand elle a commencé à grandir, elle se disait, s'attacher à cette maman, c'est se dévaluer. Quand maman disait, je vais venir te chercher à l'école, non, on ne vient pas. Mes amis vont se moquer de moi. Et puis un beau jour, elle s'est ouverte vers sa maman. Mais toi aussi, pourquoi tu es née comme ça? Sa maman s'est mise à pleurer. Et puis la tante est venue, elle dit, pourquoi maman pleure? Elle dit, je lui ai posé une question, je ne sais pas pourquoi elle pleure. Elle dit, tu n'aurais pas dû poser cette question. Tu avais 6 mois. Et ta mère était sortie, elle était allée vendre au marché. Et puis la case a pris feu. Et tu étais dedans. Le feu était tellement intégré, tout le monde disait, en essayant d'aller sauver cet enfant, tu vas mourir toi-même. Elle reste là, dit non, je ne peux pas rester ici et laisser ma fille mourir. Et la maman est rentrée dans le feu. Elle a pris l'enfant, elle l'a placé là, elle s'est couverte, elle-même recevant tout le feu. Et elle est sortie, cet enfant a été protégé. Cette jeune fille est allée dire à sa maman, pardonne-moi pour tous les complexes que j'ai eus à ton égard. Désormais, viens me chercher à l'école. Il arrive des fois, nous manquons certaines choses parce que nous n'avons pas les informations. Combien il est bon que nous puissions connaître la hauteur, la profondeur, la largeur de l'œuvre de la croix. Il arrive des fois, nous connaissons très peu, pas suffisamment. Le deuxième but, que cette appréciation nous amène à trois choses. La première, plus d'attachement vis-à-vis de Dieu. La deuxième, plus de reconnaissance. Et la troisième, plus d'adoration. Plus d'adoration. Plus d'adoration. On parle d'un joueur congolais, il semble qu'il ne joue plus tellement. Autrefois, avant qu'il joue, il disait « Mbongo mouké, balé mouké ». Les amateurs de football voient de qui je vais parler. Mbongo mouké, balé mouké. Vous me donnez très peu, je ne joue pas bien. Et j'ai compris quelquefois très peu de révélations, très peu d'amour. Quand on connaît peu, on ne sait pas bien adorer. Mais quand on connaît beaucoup, on sait adorer. C'est pourquoi je me redis, vous qui êtes des juges, qui aimeriez toujours émettre un avis, la louange commence, vous voyez cet homme de 60 ans se mettre à genoux. Mais lui aussi, malgré son côté intellectuel, comment il peut se rabaisser jusqu'à ces points? Tu ne connais pas l'histoire qu'il y a derrière. La plupart des fois qu'il voyait beaucoup d'exubérance et beaucoup d'expressions, arrêtez de connaître quelle histoire il y a derrière. Seigneur, aide-moi qui tu es. ce que tu as fait pour nous, afin que nous puissions t'aimer. Cette jeune femme est venue, elle a pris ce qu'elle avait de plus précieux pour une jeune fille juive, ses cheveux. Elle les a ouverts, elle a placé le parfum au pied du maître et s'est mise à essuyer tout ce qu'elle avait de meilleur. Quand vous connaissez, plus rien n'a de prix. Plus rien, plus rien, plus rien. Troisième but de cet enseignement ce matin, en parlant de ces choses, c'est nous aider à rechercher avec certitude les acquis de l'œuvre de la croix. À les rechercher. Il y a des choses des fois que nous ne réclamons pas parce que nous n'avons pas la connaissance que ces choses nous appartiennent. N'est-il pas dit que mon peuple périt faute de connaissances? Des fois, nous connaissons peu, nous avons difficile à remarquer, à réclamer plutôt. On parle de l'histoire d'un monsieur. À l'époque, on faisait les voyages entre l'Europe et les États-Unis par bateau. Et cet homme a payé son prix et on lui a donné un billet. La traversée se faisait en 10 jours. Et il s'est arrangé, il a préparé sa nourriture pour 10 jours. Parce que d'après ce qu'on lui avait dit, il n'avait payé que la traversée, mais pas les repas. Et il est monté dans ses bateaux, il est allé dans son petit coin. Chaque jour, il essayait de manger avec parcimonie, il essayait de bien gérer. Mais voilà, au 6e jour, sa nourriture est finie. Mais chaque fois, il entendait le matin à 7h, à 13h, et puis à 19h, on sonnait, les gens allaient vers un endroit. Et quand les gens allaient, ils disaient, vous allez où? Nous allons pour manger, des dommages. Vous, au moins, vous avez payé. Et pour la traversée, et pour la nourriture, moi, je n'ai payé que pour la traversée. Le 7e jour, il n'a rien mangé. 8e, même en 9e, au 10e jour, donc à peine il s'apprêtait à arriver, ça a encore sonné, il dit, ah, si tu peux m'amener quelque chose. Et un monsieur est venu, il dit, montre-moi ton billet. Il a regardé son billet, il a tourné derrière, il dit, notez bien, vous avez droit à 3 repas chaque jour. Il est mort de faim, sincèrement, alors qu'il y avait des choses qui étaient à sa portée. J'aimerais dire à quelqu'un, après cet enseignement, réclame des choses qui sont à toi. Réclame des choses qui sont à toi. Et pourquoi pas aussi, viens à Jésus-Christ pour bénéficier de ce qu'il a mis à notre disposition. Le premier type que nous voyons en ces jours, nous voyons Jésus-Christ qui est présenté comme étant la ville des refuges. Ville des refuges. Et Lévitique 16 que nous avons lu nous en parle. Et ce passage que j'aime beaucoup nous donne 6 informations importantes attachées à la ville des refuges. La première information nous est donnée au verset 7, que cette ville des refuges était au nombre de 48 au total. 48 villes que l'on avait mis de côté pour cette activité. Les villes que vous donnerez, versets 7 et 8, total des villes que vous donnerez aux Lévites, 48 villes avec leurs banlieues. Verset 7, pardonnez-moi. 7, 48 villes. Mais deuxième information, d'après Nombre 35, verset 6, autant il y avait 48 villes, mais il y avait 6 villes comme ville des refuges. 6 villes placées de côté sciemment. Le peuple va entrer dans la terre promise, on va se distribuer les terres. Mais il y aura 6 villes fortifiées, entourées, qu'on appellera des villes des refuges. Nombre chapitre 35, verset 4, nous donne la troisième information par de leur emplacement. 3 villes au-delà du Jourdain et 3 villes dans le pays des Canaan. Distribution égale. Et si vous étudiez la carte d'Israël, vous voyez que Dieu a placé enfin que les distances soient quasiment égales. 4e information, et là c'est même le nœud de notre enseignement. Nombre 35, versets 11 à 10, nous parle des droits qu'il y avait d'être à cet endroit et les buts pour lesquels on pouvait se placer à cet endroit. Il est dit au verset 11, cet endroit, c'est l'endroit où pourrait s'enfuir le meurtrier qui aura tué involontairement. Et le verset 12 ajoute, ces villes serviront de villes de refuge contre les vengeurs de sang, afin que le meurtrier ne soit pas mis à mort avant d'avoir comparu devant l'Assemblée pour être jugé. Le verset 15 va plus loin, par de qui y avait droit. Ces villes serviront de refuge, 1, aux enfants d'Israël, 2, à l'étranger, trois à celui qui demeure au milieu de vous. Et j'aime ce qui est dit. Là pourra s'enfuir tout homme, j'aime, tout homme qui aura tué involontairement. C'est une possibilité qui nous est donnée de nous enfuir à cet endroit et de nous cacher. Les versets 22 à 23 nous donnent encore quelques indications supplémentaires sur qui avait droit. Celui qui, en jetant une pierre, causait la mort indirectement. Voilà les gens qui pouvaient aller se cacher à cet endroit. Cinquième information, nous retrouvons cela dans Nombre 35, versets 26 à 27. Nous parle de la condition sine qua non pour bénéficier des avantages attachés à cet endroit. Endroit de grâce, endroit où le jugement tombait en désuétude, endroit où tout s'arrêtait, la condition restait dedans. Rester dans la ville des refuges. N'est pas sorti. Quand tu viens dedans, il ne faut pas sortir, il faut y rester. Verset 26 dit, si le meurtrier sort du territoire de la ville des refuges où il s'est enfui, et si les vengeurs du sang le rencontrent hors du territoire de la ville des refuges et qu'il tue le meurtrier, il ne sera point coupable de ce meurtre. C'est-à-dire son seul salut, c'est d'être à cet endroit. Hors de cet endroit, le jugement peut te frapper. Sixième information, Nombre 35, au verset 28, nous parle de la durée de cet état de grâce. Jusqu'à quand on pouvait rester à cet endroit? Jusqu'à quand on pouvait se cacher à cet endroit? Et remarquez, à la fois c'était un endroit de protection, mais non pas c'était un endroit où on était privé de certaines choses. Privé de liberté, privé de la communion avec sa famille. On est certes à l'abri d'un jugement, on ne peut pas faire certaines choses. Et la Bible déclare qu'on pouvait y rester jusqu'à la mort du souverain sacrificateur en fonction. Quand le souverain sacrificateur en fonction mourait, on pouvait ressortir et la loi ne pouvait pas vous frapper. Quel que soit, si le souverain sacrificateur meurt, tout s'arrête. Mais l'histoire montre que certaines personnes avaient gardé de la haine. Vous avez des personnes qui ont tué le leur. Il arrivait des fois même après la mort du souverain sacrificateur, ils tuaient quand même pour montrer que c'était imparfait avant que notre ville de refuge parfaite n'arrive. Notre souverain sacrificateur. Vous savez, cet endroit devait être un endroit spécial, un endroit formidable et même un endroit plein de significations pour les hommes et les femmes qui avaient versé le sang et le sang qui criait vengeance. Un homme qui avait tué, un homme qui involontairement avait causé la mort, son salut était à cet endroit et il devait faire usage de sa force. Il devait faire usage de ses moyens. Il fallait faire usage de ses jambes, courir plus vite que les autres parce que si on vous attrapait avant la ville, on pouvait vous tuer. L'histoire dit que la plupart, quand ils entraient, et il semble même quelquefois ont mesuré. On disait déjà, si 10 cm entrent, c'est que vous êtes déjà dedans, on ne peut pas vous toucher. Protection, mais un endroit formidable. À cet endroit, s'arrêter et était suspendu tout jugement. À cet endroit, la colère des hommes et celle de la loi s'arrêtait et elle perdait sa force. Cet endroit était un endroit enviable pour les fautifs, pour ceux qui avaient fauté, pour ceux qui avaient commis du mal. Qu'est-ce que s'y retrouver était un apaisement. Genèse 4, verset 10, nous montre du sang. Rien, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à toi. Je me réunis tous les cris. Et le sang versé crie vengeance. Et le sang, je pas versé. On peut verser le sang de manière. On peut tuer physiquement. On peut tuer spirituellement par des fétiches, par l'envoûtement. Mais on peut tuer aussi quelqu'un en détruisant sa réputation. Savez-vous que la réputation d'un homme, c'est toute sa vie? Qu'il y a des gens qui n'osent plus l'être parce que quelqu'un les a salis. Et je le dis souvent sous l'église à nous pentecôtistes. Il y a des rêveurs professionnels qui ont même quasiment d'encyclopédie d'explication sur le mot l'hémoglobinpudicité. Sur le tinia ou sur le mutabon maramakam. C'est écrit où? Je ne dis pas que ça ne peut pas être ça. Mais faites attention. J'aime bien Joseph. Chaque fois, je dis, waouh, Joseph, il était fantastique. Quand le panetier lui amène un songe, j'écoutais les songes. J'avais vu un homme qui tenait un panier, il y avait du pain dessus et des oiseaux qui venaient picoter. En tout cas, moi, j'ai la tête coupée là-dedans. Lui, il a vu la tête coupée dans 3 jours. Il a vu encore cette vache grasse avalée par cette vache maigre. Si tu n'as pas des explications qu'il faut, mais que les yeux à cet ennemi, moi, j'ai gambé, bah, regarde, bon, disons. Bon, saison, on sait que le kibas, ennemi, ami, konda, bakoya. Alors, désormais, quand quelqu'un un peu, ayant de la masse, vient au kokangaïté. Seigneur, donne-nous des gens qui ont des réelles explications. Pas des gens qui viennent semer les troubles. Français courant dit, j'entends le sang de ton frère dans le sol, mais réclamer vengeance. J'entends la voix du sang de ton frère dans le sol, ça c'est la colombe. Elle crie vers moi pour demander vengeance. Elle quitte la terre pour aller au ciel pour demander vengeance. Mais ce que je voudrais dire, si la ville des réfuges autrefois était un endroit physique et il fallait des efforts physiques pour y arriver, aujourd'hui, notre ville des réfuges, Jadou, n'est pas un endroit physique. Nous n'avons pas besoin de chercher l'emplacement. Nous n'avons pas besoin, si nous sommes du côté des Canandis, où sont les 3 villes? Nous n'avons pas besoin, si nous sommes au-delà du Jourdain, où sont les villes? Notre ville des réfuges est une réalité spirituelle. C'est être en Christ. Si quelqu'un croit en cela, qui m'aide à dire Amen. Et quand nous sommes en Christ, Romains 8, verset 1 nous montre que tout jugement s'arrête en disant, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont à Jésus-Christ. Je ne sais pas ce que tu as fait. As-tu avorté? Je ne sais pas ce que tu as fait. As-tu versé du sang? Je ne sais pas ce que tu as fait. As-tu été un militaire au champ qui a fait je ne sais pas quoi? Mais dès l'instant où tu viens en Christ, tu es caché en Christ, notre ville de refuge, et il n'y a plus de condamnation. Le sang ne peut plus crier vengeance. Quand le sang crie vengeance, lui te protège. Si tu crois en cela, tu as expérimenté cela, aide-moi à dire Amen. Amen. Notre ville de refuge. Tu n'as plus besoin de revenir sur tes avortements d'autrefois. Tu n'as plus besoin de revenir sur les choses que tu as faites. Ah, je n'aimerais pas encourager la sorcellerie. Tu as bouffé tout un village. 300 personnes. Mais quand tu viens en Christ, le corps est mis à zéro. Plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. En ce jour de Pâques, double message. Le premier appel à la reconnaissance et à l'action des grâces, les hommes et les femmes qui ont versé le sang, qui a ouvert la porte à la vengeance par l'homicide, par la sorcellerie, par les empoisonnements, par tout autre rien. Leur dire que non seulement que Christ a pardonné, mais ils doivent avoir en tête qu'ils sont cachés en Christ, qui est notre ville des refuges. Dans Psaume 103, verset, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Souviens-toi que c'est lui qui t'a donné ses bienfaits. Le jugement est suspendu. Dans Éphésiens 5, verset 20, l'apôtre dit, rendez continuellement grâce à Dieu pour tout. L'unique fait que souvent nous ne savons pas rendre grâce et que nous devenons amnésiques. J'aime quand Israël veut rentrer dans la terre promise, Dieu dit, garde-toi d'oublier. Mangera et te rassasiera, tu te souviendras de l'Éternel ton Dieu. L'un des problèmes, c'est que nous n'en soyons pas ou peu de mémoire. Seigneur, aide-moi à ne jamais oublier d'où tu m'as tiré. Afin que j'appelle chaque jour l'heure de la croix dans ma vie. Colossiens 2, verset 7 dit, puisque vous êtes abondés en lui, abondez en action de grâce. En action de grâce. Par remercier Dieu avec beaucoup d'argent. La version Taube dit, soyez dedans de reconnaissance. Et l'apôtre Paul, un homme qui aussi avait beaucoup de sang, lui volontairement, mais oui quand même volontairement, parce qu'il était dans l'ignorance. Il arrêtait les histoires, dit qu'il avait un célèbre cheval sur lequel il montait, il allait arrêter ceux qui professaient Christ. Et ces gens étaient enchaînés et il les tirait sur le sol parce que la peau partait petit à petit, trouvant un plaisir dans cela. Mais lui-même, plus tard quand il s'est converti, il s'est rendu compte qu'il a versé du sang. Mais Dieu merci, il était aussi conscient que sa vie était cachée en refuge. Il dira dans 1, verset 12 à 13, « J'ai rendu à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé digne, fidèle plutôt, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur. » Il dit un homme violent. Et le terme violent qu'il veut dire, il a dit « qui tuait violemment ». Mais il dit « J'ai trouvé grâce. » Pourquoi ? J'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance. Désormais, sa vie était cachée en Christ, notre ville des refuges. Y a-t-il quelqu'un en ces jours qui peut aussi dire, moi aussi, le sang m'a réclamé, mais je suis caché en lui, ma ville des refuges. Mais il n'est pas seulement notre ville des refuges, il est aussi notre bouc, Azazel. Et Lévitique 16, 3, 10, 20 à 22, ainsi que 26 que nous avons lu, nous explique c'est quoi les boucs, Azazel. Quand était-il offert? Comment? Pour quelle signification? Pour quel bénéfice? Et pour quelle finalité? Ce passage nous montre en 6 étapes les rituels tels que ça s'est passé. Le verset 5 nous montre qu'Aaron recevait 2 boucs de main du peuple pour les sacrifices d'expiation. 2 boucs qu'Aaron recevait du peuple. Ça, c'est la première des choses que ce texte nous montre, et nous le trouvons au verset 5. Le verset 2 nous montre dans ce processus. Premièrement, Aaron offrait un taureau expiatoire pour lui et pour sa maison, pour que lui-même aille et puisse avoir accès dans la présence de Dieu. Il devait d'abord se purifier, sinon la colère de Dieu s'est tombée sur lui parce que personne ne pouvait s'approcher de Dieu tout en étant pas réconcilié avec Dieu. Trois que nous retrouvons du verset 7 au verset 8, nous parle du moment important. On a amené 2 boucs à l'entrée de la tente. Les 2 boucs étaient amenés. Et quelque chose passait quand ces 2 boucs étaient amenés à la tente de l'assignation. Les versets 8, on ne savait pas d'avance quel était le bouc qui était offert en sacrifice et quel était le bouc qui allait être offert à Azazel. Mais nous montre que ça devait être des boucs bien examinés. Et là encore, c'est un type de Christ qui n'a jamais commis de péché. 2 boucs sont amenés. On ne sait pas lesquels vont être brûlés comme fond d'expiation et lesquels vont être lâchés pour servir d'Azazel. 4e étape, toujours le verset 8, nous montre qu'il y a 2 choses. L'un pour l'Éternel et l'autre, c'est la première fois où ce terme est utilisé pour Azazel. Le mot Azazel revient dans la Bible simplement 4 fois. Et les 4 fois, c'est dans Lévitique 16. Azazel. Ce mot est la combinaison de 2 racines, Aza et Zel. Et c'est ces 2 combinaisons placées ensemble, Aza qui veut dire bouc et Zel qui veut dire disparaître. Et littéralement, Azazel veut dire ou signifie celui qui emporte les mâles. Ou les boucs qui disparaissent. Azazel. Bouc disparaître. Un bouc qui disparaît. Un bouc qu'on ne garde pas. Mais la vraie signification, et ça c'est ce que la plupart des rabbins juifs disent, le mot Azazel veut dire la force de Dieu. La capacité de Dieu. La capacité de Dieu à trouver des solutions aux problèmes des hommes. Nous avons un Dieu puissant. Nous avons un Dieu fort. 5e étape qui nous est montrée au verset 9 et 10 nous montre la différence dans l'utilisation de 2 boucs. L'un était offert en sacrifice d'expiation, coupé en morceaux et placé sur l'autel. Et le feu était placé et cette offrande devait être brûlée complètement. Mais l'autre rester vivant et quelque chose d'étrange se passe. Quelque chose de merveilleux. Il était lâché dans les déserts. On terminera avec ça tout à l'heure. 6e étape, du verset 20 au verset 22, nous montre comment cela s'est passé. Le verset 21 nous montre une chose. Quand on a offert les boucs qui devaient servir d'expiation, on a mené les boucs à Azazel après que les sorts aient été tirés. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les souverains sacrificateurs posaient les mains sur les boucs qui devaient servir d'Azazel. Deuxième des choses, ils confessaient les péchés du peuple. Pourquoi? Parce que ces boucs étaient le symbole de la croix. Vous savez, la croix est l'endroit des rencontres entre l'amour de Dieu et la justice de Dieu. La justice de Dieu pousse à punir les péchés. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Mais l'amour de Dieu pousse à pardonner. Comment Dieu peut-il être juste tout en continuant d'aimer? Si par amour, il lâche sans punir, il sera à se contredire. Mais s'il punit aussi, sans amour, sans pardonner, ce sera remis en question. Et les bouzelles, qui est le type de Christ, était la rencontre de justice et de l'amour de Dieu. Il dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui... Et les hommes qui ont péché devaient mourir. Alors Dieu dit, ne pas mourir, quelqu'un doit mourir à votre place. Et on a mené un bouc, on met les mains sur lui et on prononçait des paroles et lui devenait péché. Et parce qu'il devenait péché, il pensait dans le désert. Et j'aime ce que les rabbins juifs disent. Quand ce bouc allait, plus il s'éloignait, plus les transgressions du peuple s'éloignaient du regard et s'éloignaient de la présence de Dieu. Ce bouc était un bouc. Quand ils voyaient ce bouc s'éloigner, ils étaient apaisés. Mon péché n'est plus devant moi. Il dit, mon péché est constamment devant moi. Mon péché s'éloigne de moi. Et il est dit qu'un homme est amené le plus loin. J'aimerais dire à quelqu'un, tes péchés ne sont pas couverts. Tes péchés sont pardonnés. Pardonnés. Quand il posait ses mains, c'est cet animal qui devenait pécheur. Et l'homme était libéré. Et il est dit, ses boucs étaient chassés des hommes. Le verset 22 dit, et ça j'aime, il emportera sur lui toute leur iniquité dans une terre désolée. La pensée, comme je l'ai dit, est que l'animal, en s'éloignant, nous éloigne de la conviction de notre péché. Et plusieurs passages de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament confirment que Jésus-Christ est notre bouc Azazel. Ésaïe chapitre 53, versets 4 en 5 dit, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Galates chapitre 3, verset 13 dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu lui-même malédiction pour nous. Il a porté cela. Et comme les boucs Azazel ont posé ses mains sur lui, et il portait les fardeaux, dans Matthieu chapitre 27, verset 46, lui qui était toujours en communion avec le Père l'a éloigné parce qu'il a porté le péché, et il a crié, « Eli, Eli, lama sabachthani, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Le Père a dû lâcher le bouc Azazel parce que ce bouc portait désormais le péché. Psaume 103, verset 12. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant j'éloigne de vous vos transgressions parce que le bouc Azazel l'emporte. Oh, la paix que Jésus donne, je ne la connaissais pas. Tout sur mon chemin rayonne depuis qu'il conduit mes pas. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il est loin de vous, vos transgressions. La version française courante dit, il met entre nous et nos mauvaises actions autant de distances qui entre le soleil levant et le soleil couchant. J'aimerais vous encourager à voir la révélation de Jésus-Christ comme notre bouc Azazel. Mais aussi, après que le bouc Azazel ait été lâché, il est prouvé en Israël que l'on chantait un cantique que plus tard Esaïe a placé dans Actes 43, verset 25. Il dit, et ça c'est Dieu qui déclare cela, c'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi. Et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Les boucs Azazel remettaient les compteurs à zéro. Et Jésus aussi a remis les compteurs à zéro. En termes, avant que nous puissions ensemble avec la chorale réchanter ces merveilleux cantiques du bouc Azazel, je demande même aux musiciens de revenir avant que nous passions à la Sainte Seine. J'aimerais parler de cette histoire de Luc chapitre 23, Les grands musiciens, revenez. Merveilleux moment. Deux brillants sont sur la croix. Ils sont en train de subir un sort à condition. Et alors que la foule est en train de se moquer du maître, sauve-toi. Et même l'un des brigands aussi lui lance un défi. Bizarrement. Alors que comme Isaïe, il avait quelqu'un de nu sur la croix. La plupart des fois, nous les prédicateurs, on est pudiques. Mais tous les contextes montrent que Christ était nu sur la croix. Couronné d'épines. On avait fait placer une couronne d'épines. Et cette couronne d'épines est rentrée, ça a créé une infection. Une infection qui a fait gonfler les visages. C'est pourquoi Isaïe dira, il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et non seulement ça, il avait un corps tout rouge. Parce que lui-même le dira, il dira, mon dos avait été labouré. Et vous savez, les Romains, autrefois, quand ils châtiaient un meurtrier, ils avaient un fouet qui avait au bout les ossements de la vache. Et quand on frappait, qu'est-ce qui s'est passé? On frappait, ça attrapait le corps, paf! Et quand on retirait, la chair partait. Et c'est comme ça. Il avait le visage tuméfié, infecté. Certains disent même qu'il a dû faire de la fièvre tout le temps où il est resté. Parce que la couronne d'épines était placée la nuit. Visage plein de crachats, parce qu'on crachait sur lui. Il a l'air de tout, sauf du grand sauveur. Mais ce brigand sur la croix a eu par révélation que c'est lui notre ville de refuge. Il s'est retourné vers son ami, il dit, nous recevons ce que nous recevons parce que nous avons fauté. Mais lui, qu'a-t-il fait? Et il est capable de voir en lui là où l'on peut se cacher pour que les vengeurs du sang ne viennent pas. Il s'est retourné vers cet homme au visage tuméfié, au dos labouré, au visage où il y avait un mélange de sang et de crachats. Il dit, ne m'oublie pas quand tu viendras dans ton règne. Comment peut-on voir un roi derrière un homme dévalué? Ce matin, si tu as expérimenté le pardon parce que tu as versé du sang autrefois et que les hommes et que la loi te réclamait et que tu t'es caché dans Christ qui est notre ville de refuge, tu peux le louer. Ce matin, si tu as tellement commis de fautes, mais comme autrefois, tu as posé tes mains sur ces boucs et Dieu l'a lâché et tes péchés ont été pardonnés. Tu peux les célébrer avec moi. Et alors que nous sommes en train de les célébrer, je le crois, des guérisons se passent. Les maladies les plus fortes, les plus résistantes. Parce que là où Jésus l'a vu des refuges, le jugement s'arrête. Là où le bouc Azazel est lancé, il n'y a plus de condamnation. Pour le salut de mon âme.
Pour le salut de mon âme.
Amen.
Amen.
Jésus, merci parce Jésus, que tu as été lâché pour moi.
Jésus,
plus
Jésus,
tu t'es éloigné,
mon
plus mon péché a été oublié.
Pour le salut de mon âme.
Y a-t-il quelqu'un qui va célébrer son bouc à sa zèle?
Jésus,
pour le salut de mon âme, pour le salut de mon âme. Y a-t-il quelqu'un qui veut le célébrer encore avec moi? Jésus,
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 pour
le salut, pour le salut.
Y a-t-il quelqu'un qui peut imiter le pardon de Dieu et qui peut reconnaître que c'est son bouc à sa zèle?
Pour le salut de mon âme.
Amen.
Amen.
Sois qui était élevé, tu devins le plus bas
pour me sauver,
pour le salut de mon âme.
Alléluia.
Ah, oh, Jésus.
Fais-tu le célébrer encore avec moi, Jésus, Jésus, Jésus.
Oh, Jésus,
Jésus,
mon bouc à sa zèle, pour le salut de mon âme,
pour le salut de mon âme.
Alors que les instruments continuent à jouer, élève ta main et ta voix. Commence à bénir celui qui est ta ville de refuge. C'est lui qui a arrêté le jugement. C'est lui qui dit au vengeur, il a fauté. Mais puisqu'il est dans mes murs, tu ne peux plus le toucher. Alléluia. Il est ma ville de refuge. On ne me réclamera plus mes avortements. On ne me réclamera plus le sang versé. Mon bouc à sa zèle est ma ville de refuge. Dieu, jusqu'où tu peux aller pour me sauver? Dieu, jusqu'où tu peux aller pour me pardonner? Dieu, jusqu'où tu peux payer les prix pour mon pardon? Dieu, jusqu'où tu peux aller? Jésus, 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 alléluia! Est-ce qu'on peut le chanter encore? Alléluia!
Oh, Jésus!
Pour le salut de mon âme.
Pour le salut de mon âme.
Alléluia.
Amen.
Encore.
Jésus, Jésus,
Jésus.
Jésus.
Mon bouc à sa
zèle. Pour le salut.
Est-ce qu'on peut les chanter maintenant sans les instruments? Est-ce qu'on peut s'élever tous dans les instruments? C'est le droit notre bouc à sa zèle. De mon âme.
Pour le salut de mon âme.
Amen. Amen.
Amen.
Y a-t-il quelqu'un qui veut célébrer son bouc à sa zèle?
Jésus,
Jésus,
mon bouc à sa zèle. Pour le salut de mon âme.
Chante-le une dernière fois. Alors que l'homme de Dieu vient déclarer. Alléluia.
Mon bouc à sa zèle, pour le salut de mon âme.
Amen.
Oh, taraba, shakaraba, bobo, shandaraba, bobo. Ikandaraba, shandaraba, bobo, shakaraba, baba. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Le péché qui t'est condamné a été porté à la croix. Et ce matin, je viens t'annoncer que tu es libre. Christ t'a affranchi et c'est pour la liberté. Tu n'es plus sous l'esclavage du péché. Tu n'es plus sous l'esclavage du péché. Et je puis dire ce matin, comme le psalmiste, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Nous avons de bonnes raisons de nous confier en toi, parce qu'en toi nous avons trouvé un refuge, un abri sûr. Tu nous couvres par tes plumes. Nous trouvons un refuge sous tes ailes, Éternel, notre Dieu. Merci pour ta fidélité. Je voulais déclarer ce matin, à cause de l'œuvre de la croix, à cause du bouc à sa zèle, tu ne craindras plus aucun mal. Tu ne craindras plus la terreur, ni la nuit, ni la flèche qui vole les jours. Tu ne craindras plus. La maladie n'aura aucun effet sur toi. La puissance des mains n'aura aucun effet sur toi. La puissance des sorciers n'aura sur toi. Aucune main n'atteindra ta vie. Ce matin, je viens déclarer que toutes les chances qui t'ont condamné, déchirées à la croix de Golgotha. La croix, c'est notre justification. Aucune condamnation pour ta vie, aucune condamnation pour ta famille, aucune condamnation pour tes enfants, aucune condamnation pour tes affaires. Tu marches victoire, tu marches désormais dans la victoire, car Christ t'a affranchi. Ta place à la croix de Golgotha, tu marches, désormais tu marches dans la victoire. Aucune flèche enflammée de l'ennemi ne t'atteindra. Aucune langue qui s'élèvera contre toi en justice ne pourra avoir de l'effet. Lorsque 1000 tomberont à ton côté et 10 000 à ta droite, toi tu ne seras jamais atteint. Car tu es dans la ville des refuges. Tes enfants sont dans la ville des refuges. Ton mariage est dans la ville des refuges. Tes affaires sont dans la ville des refuges. Ta santé est dans la ville des refuges. À cause du bouc Azazel, à cause de l'œuvre de la croix, à cause du sang versé, toutes les condamnations de la famille, toutes les condamnations générationnelles, je les déclare cela nul et sans effet dans le nom puissant de Jésus. Je suis en train de barrer la route à toutes les malédictions prononcées sur ta vie. Aucune malédiction sur ta vie n'aura plus jamais d'effet, car tu es dans la ville des refuges. Tu es dans la ville des refuges. Tu marches non pas dans la victoire. Tu es plus que vainqueur. Tu es plus que vainqueur. Le Saint-Esprit est dans ta vie et la mort a disparu. Toute mort programmée dans ta vie, nous annulons cela dans le nom puissant de Jésus. Toutes les maladies qui ont été programmées pour t'amener à la mort, car Christ est ressuscité. Je déclare que tout ce qui était mort dans ta vie est ressuscité ce matin. Tout ce qui était mort dans tes affaires est ressuscité ce matin. Tout ce qui était mort dans ton mariage est ressuscité ce matin. Alors que les hommes avaient programmé le divorce dans ton mariage, je viens appeler la résurrection dans ton mariage, dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour l'œuvre de la croix. Au nom de Jésus.
Passer à la table du Seigneur. Une recommandation, une institution que le Seigneur a faite à son Église. Mais néanmoins, nous voulons insister que vous n'êtes pas obligés tous de participer à cette table. Nous lançons l'invitation, mais examinez-vous vous-même tel que la Bible le dit. Parce que la Bible souligne